Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Comment dessiner en 3D dessin 3D et illusions optiques étape par étape » attribué à Adam Niara est un guide pratique de dessin consacré à la production d'effets de volume sur une surface plane. Les informations disponibles permettent surtout d'identifier son axe central à prendre, par une progression en étapes, à construire des dessins tridimensionnels et des illusions optiques. Il ne s'agit donc pas d'un traité théorique d'histoire de l'art ni d'un manuel de modélisation numérique, mais d'une initiation orientée vers l'observation, le tracé et le rendu visuel. Le principe pédagogique annoncé répond à une difficulté fréquente chez les débutants, un dessin paraît plat lorsque ses lignes, ses proportions et ses ombres ne suggèrent pas un espace cohérent. L'ouvrage semble viser une mise en pratique directe des procédés qui font croire à la profondeur, à la saillie ou à l'ouverture d'une feuille. Son intérêt réside dans le rapprochement de deux domaines complémentaires, la construction spatiale et l'illusion optique, afin de rendre les mécanismes visuels accessibles par le dessin manuel. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, construire la profondeur sur une feuille plane. Le sujet premier du livre est le paradoxe constitutif du dessin en 3D. Une feuille reste bidimensionnelle, mais l'organisation des signes peut faire percevoir un espace, une distance ou un volume. Cet effet ne dépend pas seulement du talent graphique. Il repose sur des indices visuels lisibles, notamment la direction des contours, le chevauchement des formes, la variation apparente de taille et la place relative d'éléments. Une forme qui recouvre une autre semble généralement plus proche. Une série de lignes qui se resserrent peut évoquer l'éloignement. Un contour déformé selon une orientation spatiale peut suggérer une surface inclinée. Dans un apprentissage étape par étape, la valeur d'une telle approche est de décomposer un résultat impressionnant en décisions observables. Le lecteur peut ainsi distinguer la structure du dessin de ses finitions. Cette distinction importe, car un ombrage soigné ne corrige pas une construction incohérente, tandis qu'une construction claire conserve souvent son effet même avec un tracé simple. Le livre se situe donc dans une pratique où l'œil apprend à interpréter le plan comme un espace. Cette compétence est utile autant pour réaliser des images illusionnistes que pour mieux comprendre les objets, leurs faces visibles et leur rapport de position dans un croquis. Deuxièmement, le tracé progressif comme méthode pour débuter. La mention étape par étape indique une orientation méthodique adaptée à l'acquisition de gestes graphiques. Dans ce type de guide, la progression est essentielle parce que les effets de trois dimensions sont rarement obtenus d'un seul trait. Ils résultent habituellement d'une succession logique, poser une forme de base, organiser ses bords, prolonger ou transformer certains contours pour indiquer l'épaisseur, puis renforcer l'impression par les valeurs. Cette manière de travailler réduit la confusion entre ce qui relève de la géométrie du dessin et ce qui relève de son aspect final. Pour un débutant, elle offre aussi un moyen de repérer une erreur avant qu'elle ne se propage à l'ensemble de l'image. Si les lignes initiales ne convergent pas de façon crédible ou si les côtés d'un volume ne correspondent pas, l'illusion sera affaiblie, quelle que soit la qualité du coloriage ou des ombres. L'intérêt pédagogique d'un déroulé explicite est donc de favoriser la répétition et l'autocorrection. Il ne promet pas de remplacer l'entraînement, mais il donne un ordre de travail concret. Le lecteur peut reprendre une étape précise, comparer les relations entre les lignes et comprendre que la précision visuelle se construit par des choix successifs plutôt que par une inspiration immédiate. Troisièmement, les illusions optiques comme mise à l'épreuve de la perception. L'autre pôle annoncé par le titre concerne les illusions optiques. Elles ne doivent pas être comprises comme de simples effets décoratifs. Elles exploitent les habitudes par lesquelles le cerveau interprète rapidement les formes, les contrastes et les perspectives. Un dessin peut par exemple sembler sortir du papier lorsqu'une ombre est placée du côté opposé à une source lumineuse supposée, ou paraître creusé lorsque les bords et les valeurs inversent la lecture habituelle du relief. L'effet dépend moins de la réalité représentée que de la cohérence des indices proposés au regard. Cette dimension donne au livre un intérêt particulier pour l'éducation visuelle. En essayant de produire une illusion, le lecteur constate que la perception complète spontanément ce qui n'est pas matériellement présent. Il apprend aussi qu'un léger déplacement de ligne, une ombre incohérente ou un contraste insuffisant peut faire basculer l'image d'un volume convaincant vers une forme plate. Les illusions offrent ainsi un terrain d'exercice exigeant, mais concret, elles rendent immédiatement visible la conséquence d'une décision graphique. Dans le cadre d'un manuel de dessin, elle relie l'observation du monde à la compréhension de conventions visuelles. Le dessin devient alors une expérience contrôlée sur la façon dont l'œil organise l'espace, la lumière et la profondeur. Quatrièmement, lumière, ombre et contraste pour rendre le relief lisible. La représentation du volume exige généralement une attention particulière aux valeurs, c'est-à-dire aux écarts entre les zones claires et foncées. Même lorsque les contours donnent une première indication spatiale, la lumière permet de préciser la forme des surfaces et de stabiliser l'illusion. Une face orientée vers une source lumineuse apparaît en principe plus claire qu'une face opposée, tandis qu'une ombre portée relie l'objet à son support et évite qu'il semble flotter sans raison. Dans les images conçues pour produire un effet de 3D, cette cohérence est décisive. L'ombre n'est pas un remplissage uniforme, mais un indice de position. Son orientation, sa largeur et son intensité influencent la lecture de la hauteur, de l'épaisseur et de la distance. Le contraste joue aussi un rôle de hiérarchie. Des contours plus nets ou des zones plus sombres attirent l'attention et peuvent renforcer les parties qui paraissent les plus proches. À l'inverse, une modulation trop faible efface la séparation entre les plans. Le traitement de la lumière reste néanmoins subordonné à la structure. Il doit confirmer l'organisation spatiale déjà dessinée, non la contredire. L'intérêt pratique de ce thème est de montrer que des outils courants de dessin peuvent suffire à créer du relief, à condition que les ombres soient pensées comme des éléments de construction visuelle plutôt que comme une décoration ajoutée après coup. En dernier lieu, une pratique manuelle entre géométrie visuelle et créativité. Le positionnement du livre associe un apprentissage technique à une pratique créative accessible. Dessiner en 3D sur papier demande une forme de géométrie visuelle, mais pas nécessairement un vocabulaire mathématique avancé. Il s'agit surtout de maintenir des relations crédibles entre direction, bord, proportion et plan. Cette discipline développe une attention utile au lieu de dessiner un objet comme un symbole familier. Le lecteur est invité à considérer comment ces parties se situent dans l'espace. Une boîte, une marche, un trou apparent ou une forme flottante deviennent des problèmes de face, d'angle et d'ombre. Cette approche peut également favoriser l'autonomie. Une fois les principes assimilés, les procédés ne restent pas limités à une image reproduite. Ils peuvent être appliqués à de nouvelles compositions, à des lettrages en relief, à des objets imaginaires ou à des mises en page visuelles. La créativité ne consiste alors pas à ignorer les règles, mais à les utiliser délibérément pour surprendre le regard. Il convient toutefois de situer raisonnablement l'ouvrage. Un guide introductif de dessin 3D ne remplace pas une formation complète en perspective académique, en dessin d'observation ou en infographie. Sa force est ailleurs, dans la possibilité de relier des principes spatiaux à des réalisations immédiates et vérifiables par l'œil. En conclusion, ce livre s'adresse principalement aux débutants, aux jeunes dessinateurs et aux amateurs qui souhaitent comprendre comment obtenir des images donnant une impression de relief sans recourir à un logiciel de conception. Il peut aussi intéresser les enseignants ou les parents cherchant un support d'activité graphique centré sur l'observation, la précision et les mécanismes de la perception. Son bénéfice pratique tient à la transformation d'effets visuels souvent perçus comme mystérieux en opérations de dessin plus identifiables, organiser des contours, suggérer des plans, distribuer les ombres et contrôler les contrastes. Sur le plan intellectuel, il invite à examiner la différence entre ce qui est réellement présent sur la feuille et ce que le regard croit y voir. Cette distinction donne une portée formatrice aux illusions optiques, au-delà de leur caractère spectaculaire. Par rapport à un manuel généraliste de dessin, son originalité réside dans son resserrement sur la profondeur apparente et les effets illusionnistes. Par rapport à un ouvrage théorique de perspective, il semble privilégier une entrée appliquée, orientée vers des réalisations progressives. Les lecteurs recherchant une étude exhaustive de l'anatomie, du paysage ou de la représentation académique devront donc compléter cette approche. En revanche, pour aborder concrètement le dessin spatial et comprendre les conditions visuelles qui font paraître une forme en relief, ce positionnement direct constitue son principal atout. Si vous souhaitez soutenir Adam Niara, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!